cours de philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, 17 novembre 1989, deuxième cours.
Puisque nous cherchons l'essence du temps, donc le tiesti, pour pas traduire tiesti par essence, mais ça fait rien, c'est ce que fait souvent ça. Nous cherchons ce qu'est le temps. Il faut saisir, en partant de cette première analyse, quel élément du mouvement est le temps. Donc on voit le lien. Pas de temps sans mouvement. Et donc, qu'est-ce que ça signifie exactement cette relation? Et on passe de la question sine qua non, pas de temps sans mouvement, à savoir, quel est ce lien? C'est très intéressant, parce que la plupart du temps, on reste uniquement là-dessus. Au point de vue des lois, on ne recherche que la condition sine qua non. Et oui, car ça ne se contente pas de la condition sine qua non. C'est sûr. Quel élément du mouvement est le temps? C'est... Le grec est très très précis. Ti, tes, kinesios, esti. Donc, le ti. On cherche le ti. C'est beaucoup mieux que l'élément. On cherche le... Qu'est-ce que c'est le ti du mouvement qui est le point de vue du temps. En effet, c'est en percevant le mouvement. Alors c'est ici, il faut faire grande attention. C'est le aistanomena, donc la perception, la sensation. En effet, c'est en percevant le mouvement que nous percevons le temps. C'est en même temps ama. La perception du temps et la perception du mouvement sont en même temps. Car si, quand nous sommes dans l'obscur, dans l'obscurité, et ne ressentons rien par l'intermédiaire du corps, un mouvement se produit dans l'âme, aussitôt alors, il semble que simultanément, un certain temps se soit passé. On fait appel à la perception. Dans la perception, dans la sensation, le point de vue du temps et le point de vue du mouvement sont saisis en même temps. Et inversement, quand un certain temps paraît s'être passé, simultanément aussi, un certain mouvement paraît s'être produit. Et comme c'est curieux, c'est par la perception qu'on saisit cette simultanéité du temps et du mouvement. Par suite, le temps est mouvement ou quelque chose du mouvement. Comme il n'est pas le mouvement, il est quelque chose du mouvement. Le ti. Ça ne dit rien du tout sur le ti. C'est le ti. On traduit l'élément, mais en réalité. Le ti. Qu'est-ce que je dis? Le quelque chose. Le ti se traduit le quid hein, en latin. Or, puisque le mu est mu d'un point de départ, un point d'arrivée. Terminus ad quo, terminus ad quo. Toujours. Ce qui est mu, on peut toujours préciser ces deux extrêmes. Alors, puisque le mu est mu d'un point de départ à un point d'arrivée, et que toute grandeur est continue, le mouvement obéit à la grandeur. Car c'est par la continuité de la grandeur que le mouvement est continu. Et par le mouvement, le temps. Voilà la continuité du temps qui se fait par le mouvement et qui se fait par la grandeur. mouvement le temps. En effet, le temps paraît toujours s'être écoulé proportionnellement au mouvement. Or, l'antérieur et le postérieur sont originairement dans le lieu. Vous voyez le lieu qui apparaît ici. Or, l'antérieur et le postérieur sont originairement dans le lieu. Et cela, selon la position, bien entendu. Mais si la relation de l'antérieur au postérieur est dans la grandeur, nécessairement, elle sera aussi dans le mouvement, par analogie avec la grandeur. Donc, vous voyez tous les éléments qui sont impliqués pour nous approcher du temps. Mais elle est aussi dans le temps, puisque le temps et le mouvement obéissant toujours l'un à l'autre. Donc, puisque le temps et le mouvement obéissent toujours l'un à l'autre. D'autre part, l'antérieur-postérieur, pour l'un et l'autre, est dans le mouvement. Et quant au sujet, le mouvement même. Mais quant à l'essence, donc quant à son diesti, ce qu'il est, mais quant à l'essence, il est différent et n'est pas le mouvement. Vous voyez comment on s'approche. Hein. Matériellement, il y a identité d'existence. Mais le diesti, c'est-à-dire le diesti par le logos est différent. Maintenant, et c'est notre question actuelle, nous connaissons le temps quand nous avons déterminé le mouvement en utilisant pour cette détermination l'antérieur-postérieur. Et nous disons que le temps, et nous disons que du temps s'est passé. Quand nous prenons sensation de l'antérieur-postérieur, cette détermination suppose qu'on prend ces termes l'un distinct de l'autre, avec un intervalle différent d'eux. Quand, en effet, nous distinguons par l'intelligence les extrémités et le milieu, et que l'âme déclare qu'il y a deux instants, l'antérieur d'une part, le postérieur d'autre part, alors nous disons que c'est là un temps. Ce qui est déterminé par l'instant paraît être temps. Et nous accepterons cela comme acquis. C'est très avancé. Vous avez bien compris, j'espère. C'est dense, hein. C'est très très dense. C'est très très joli comme manière de s'approcher de la connaissance du temps. Vous voyez, tout est du côté de la connaissance. Donc, nous sentons aistanometa. Quand nous sentons, quand nous percevons, traduirions ça aujourd'hui, quand nous percevons l'instant, le tonu. Donc, quand nous sentons l'instant comme unique, lieu de le sentir, ou bien comme antérieur et postérieur dans le mouvement, ou bien encore comme identique, mais comme fin de l'antérieur, commencement du postérieur. Il semble qu'aucun temps ne s'est passé par ce qu'aucun mouvement ne s'est produit. Encore, c'est très délicat. Quelle est la perception du temps? Quelle est la perception de l'instant? Puisqu'il y a un lien entre les deux, c'est évident. Alors, quand donc nous percevons l'instant comme unique au lieu de le sentir, nous percevons l'instant comme unique, au lieu de le sentir ou bien comme antérieur-postérieur. Donc, au lieu de le sentir comme antérieur-postérieur. Donc, quand nous le percevons comme unique, comme indissoluble, comme indivisible, au lieu de le sentir comme antérieur et postérieur dans le mouvement, ou bien encore comme identique, et comme fin d'antérieur et commencement du postérieur, il semble qu'aucun temps ne s'est passé, parce qu'aucun mouvement ne s'est produit. Quand au contraire nous percevons l'antérieur et le postérieur, alors nous disons qu'il y a temps. Voici en effet ce qu'est le temps. Le nombre du mouvement selon antérieur et postérieur. C'est la fameuse définition du mouvement d'Aristote. Alors, nous disons qu'il y a temps. Voici en effet ce qu'est le temps. Le nombre du mouvement selon l'antérieur et postérieur. Arithmos, le nombre du mouvement selon le postérieur. Voilà ce que c'est que le temps. C'est le nombre. Voyez, c'est intéressant parce que le nombre, c'est l'ordre que nous mettons entre l'antérieur et le postérieur. Voilà le logos du temps. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps sans l'intelligence. Et ça, saint Thomas le souligne avec beaucoup de force. C'est-à-dire qu'avant que l'homme existe, y a-t-il un temps? Au plan philosophique. Ça, il faut le retenir. Hein. Même si vous ne le comprenez pas, retenez-le. Puis, méditez-le. Donc, le nombre du mouvement, le temps, c'est le nombre du mouvement, arithmos, kinesios, katato proteron, kai usteron, selon l'antécédent et le conséquent, selon l'antérieur et le postérieur. Le kata, c'est pas selon la forme, mais c'est le selon l'antérieur et le postérieur. Donc vous saisissez le temps en nombrant le mouvement et en le nombrant à partir d'antérieur et postérieur. Nombrer, qu'est-ce que c'est? C'est ordonner. Donc le temps, c'est ordonner le mouvement selon antérieur et postérieur. Mettez un ordre. Or, seule l'intelligence peut ordonner. Donc, c'est bien l'intelligence qui va, de fait, donner au temps sa raison. On va continuer, on reviendra là-dessus, parce que ça, c'est capital. Le temps n'est donc pas mouvement, mais n'est qu'en tant que le mouvement comporte un nombre. Donc, huk ara kinesis o chronos, Allah et arithmon ekei et kinesis. Mais il n'existe qu'en tant que le mouvement possède un nombre. Donc, il a un nombre. Le mouvement comme tel n'est pas le temps, mais le mouvement nombré est le temps. Le mouvement nombré ordonné, selon l'antérieur et le postérieur. Non, c'est pas un être de raison, c'est un être très particulier. Et alors, ce qui est très curieux, pensez un petit peu à la conception de la philosophie idéaliste. Ce que nous disons du temps, l'idéaliste le dit pour tout. À ça, ça nous aide beaucoup à comprendre. Parce qu'on est tous un peu idéalistes. Mais c'est l'intelligence qui donne la signification au monde. Ça se dit toujours en phénoménologie. C'est l'intelligence qui donne la signification. Non. C'est vous qui donnez la signification à toutes les réalités que vous voyez. Vous les nombrez, vous les ordonnez, vous leur donnez leur quantité, leur signification. Pour nous, c'est pas vrai en philosophie réaliste, parce qu'il y a une nature. Mais s'il n'y a pas de nature, c'est l'intelligence qui donne à la réalité sa quantité. Nous disons ça pour le temps. Le temps n'a de réalité parfaite, donc de signification, que grâce à l'intelligence. Sans l'intelligence, le temps n'a pas de signification. Il existe fondamentalement, mais pas formellement. Il existe fondamentalement à cause du mouvement. Avant la création de l'homme, pensez tout simplement ça, avant la création de l'homme, le monde physique existait. Le monde physique existait dans le mouvement. Est-ce que le temps existait ? Alors on dit un temps préhistorique. Non, le temps n'existait pas, formellement. Alors vous voyez tous les calculs sur le temps. Ça fond comme un, comme une limace.
Qu'est-ce qu'on calcule alors au niveau scientifique
Vous projetez. Vous projetez. Être de raison. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder ce que c'est que philosophiquement le temps. C'est très extraordinaire, c'est extrêmement intéressant de voir ça.
Et là, si on regarde que le temps mesurable, comme par exemple une journée, c'est une cycle de Terre.
C'est tout.
Et ça, ça peut se compter.
Oui, ça peut se compter. C'est pas l'existence. Le savant ne sait pas ce que c'est que l'instant. Or, le temps n'existe que par l'instant. Si vous séparez l'instant du temps, vous avez un nombre que vous pouvez indéfiniment produire. C'est tout. Vous imaginez que c'était comme ça.
Pourquoi le temps fait partie des catégories d'Aristote ?
Parce que il fait partie des catégories d'Aristote, parce que le legein implique l'intelligence.
C'est pas une modalité de l'être,
mais... Oui, modalité de l'être. C'est une modalité de l'être. L'égaye, pas la cause. L'être se dit de diverses façons. Et que l'intelligence s'appuie sur un fondement. Le fondement du temps est réel. Mais formellement, l'ordre, c'est l'intelligence. C'est la science qui met l'ordre. La physique. La physique d'Aristote. Saint Thomas a commenté toute la physique d'Aristote. Et quand vous regardez dans le commentaire, il y a un commentaire extrêmement beau, je vais hésiter, mais il faudrait que quelqu'un qui est très bon en latin le traduise pour les frères. Parce que ça vaut la peine, ça, c'est un lieu extrêmement intéressant. C'est un petit travail à faire, un petit opuscule. Le commentaire de Saint Thomas du livre 4 de la vie. Vous avez le lieu et le temps. Je ne dis pas tout comment tout traduire, hein, mais les grands passages sur le lieu et les grands passages sur le temps.
Qu'est-ce que c'est que cette opération d'intelligence qui nombre ?
Ordonne. Nombrer. Qu'est-ce que c'est que nombrer ? Oui. Quand vous nombrez, qu'est-ce que vous faites ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous ordonnez. Vous ordonnez de diverses façons. Vous ordonnez horizontalement, puis vous pouvez ordonner verticalement. Nombrer, c'est ordonner, c'est mesurer. Et en mesurant, vous ordonnez. Vous faites un lien entre le passé et le futur. Vous ordonnez, antérieur et postérieur. Avec l'instant comme jugement d'existence. l'existence du temps, c'est l'instant présent. C'est l'instant. La bonne intelligence. C'est tout. Il n'y a pas référence à l'instant. Je vous ai déjà dit, on avait fait à Fribourg. C'était très intéressant. C'est un de ces quelques séminaires extra-formables en dehors de l'université. On pouvait le faire, parce qu'on avait quand même contact avec les diverses facultés. On avait fait une année un séminaire sur le temps avec un astronome qui venait de Lausanne. Parce qu'il n'y a pas de... À Fribourg, il n'y en a pas. Qui venait de Lausanne, qui était un ami. Parce que chaque fois qu'on allait à Lausanne, on allait à son laboratoire et on allait regarder les étoiles. Ça faisait partie de l'expérience. Un matheux, un chimiste, un poète. Parce qu'il y a le temps du poète. Et puis, quelques philosophes qui réfléchissaient sur la pensée d'Aristote. Alors, on s'est aperçu très vite que seul le philosophe parle de l'instant. Pour lui, c'est capital. Jugement d'existence. Le jugement d'existence, c'est l'instant. Le temps existe maintenant. Il y a donc. Mais le temps passé, c'est du temps passé. Il faut ramasser les vieilles feuilles. C'est le temps passé. Et puis le temps futur, c'est ce qui doit arriver. Je l'imagine.
Oui. Est-ce que pour un moment, l'estimation du temps relève de l'intelligence?
Ah oui.
Est-ce que la cogitative ne peut
L'animal n'a aucun temps à la cogitative de l'homme.
Oui.
Oui, mais elle est liée à l'intelligence.
Que Kant dit que c'est une forme a priori de la sensibilité.
Oui, mais oui, parce qu'Aristote dit sensibilité. Vous voyez. Mais une sensibilité habitée par l'intelligence, comme le jugement d'existence, ce que Kant n'a pas vu. Kant coupe ce que Aristote distingue. La perception du temps implique la sensation. Ça, c'est sûr. Vous voyez. La perception du temps implique la sensation. Mais c'est une perception de l'intelligence. Puisque seule l'intelligence ordonne. Même votre estimative, si développée qu'elle soit, n'ordonne pas. Parce que l'estimative fait saisir le convenience. Et que donc.
Est-ce que la durée fait appel à l'intelligence?
La durée, le point de vue du vivant, c'est dans le vivant, ce temps intérieur. Dès que vous comparez la durée et le temps, ça fait appel à l'intelligence. Ça, c'est sûr. Mais la durée peut être saisie par l'estimative, parce qu'elle n'implique pas le jugement d'existence. C'est toujours la même chose, c'est le jugement d'existence que seule l'intelligence peut poser. Or, la durée n'implique pas nécessairement l'expérience interne. Vous voyez, quand vous allez chez le dentiste et que on trafique vos dents, il y a une durée. Une durée de souffrance. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire mal. Hein, il suffit qu'il dise ça pour que immédiatement. On est en position de répondre. Oui. Alors, c'est la durée intérieure n'implique pas nécessairement l'intelligence. Mais si vous comparez durée, temps, oui. Tandis que temps est objectif. Alors, on va avancer encore, oui.
L'intelligence de l'homme n'est pas là pour nombrer le mouvement. Est-ce que le mouvement n'a pas un ordre intrinsèque?
Mais fondamentalement, oui. Il y a un ordre, puisque c'est un mouvement naturel. Mais il n'y a pas le temps. Mais autre chose, le temps, autre chose, le mouvement. Mais c'est une chose très curieuse. Hein. Le temps, le mouvement existe sans le temps. Mais le temps n'existe pas sans mouvement. Donc le temps est postérieur au mouvement. Et pour que le temps existe formellement, le diestime temps, c'est l'ordre. Oui. Donc vous voyez bien, le saisit, elle met un ordre dans le mouvement. Et c'est vrai que si l'intelligence humaine n'est pas là, alors on verra les conséquences de cet ordre. Mais quand vous étudiez les couches successives, vous voyez pas le mouvement. L'antérieur, postérieur, vous pouvez noter qu'il y a eu un antérieur et un postérieur.
Donc on peut dire qu'on touche les effets d'un devenir, mais pas les effets du temps.
Voilà, exactement. Toujours, le devenir existe parfaitement. Le devenir est plus objectif que le temps. Le temps reste objectif par le mouvement et par l'antérieur et le postérieur, mais le temps lui-même fait appel à l'intelligence. Alors, subjectivité d'une intelligence objective. C'est ce qu'il faut dire. C'est pas la subjectivité affective. Donc c'est la subjectivité d'une intelligence objective. Donc le temps reste objectif. Il n'est pas subjectif. Il est objectif. Mais il n'existe formellement que quand l'intelligence met l'ordre entre l'intérieur et le postérieur.
C'est une activité naturelle de l'intelligence.
Ah oui, l'activité naturelle. Oui.
Et le temps, l'omniscience, c'est une activité artistique plutôt.
Oui. Mathématique. Toujours. C'est l'ordre uniquement. Il n'y a pas la référence à l'existence. Oui, c'est très commode pour calculer avant. Parce qu'il n'y a pas de référence à l'existence. Et nous, vous voyez, nous sommes ontologistes. Ce que le savant dit comme temps, nous voulons le réaliser dans la réalité. Mais non, il ne faut pas le réaliser dans la réalité. C'est autre chose. Quand vous dites ça à un matheux qui est habitué, ça le suffoque. C'est extrêmement curieux. Parce qu'il était persuadé que tous ces calculs, mais oui, c'est la réalité. Mais non, c'est pas la réalité. Arrêter est autre chose. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'arrêter. Et ça, c'est très intéressant et très important. La science ne porte pas de jugement existentiel. Elle reste dans des calculs très beaux, ordonnés, magnifiques, mais elle ne porte pas ce jugement d'existence. Et quand vous passez de la conclusion scientifique à l'existence, c'est votre ontologisme. C'est pour ça que l'ontologie s'accommode si bien avec les sciences. Vous comprenez? C'est tellement pratique. Vous gobez tout le temps. Et vous êtes naïf. C'est une naïveté prodigieuse, très intelligente. C'est la naïveté de notre siècle. La naïveté de notre siècle, c'est de croire que toutes les conclusions scientifiques, c'est le réel. Quelque chose au réel. Et pour les calculs, le réel est très faible comme fondement. Puisque déjà, quand il s'agit du temps, l'intelligence intervient. Et ce qui fait que les calculs astronomiques, les calculs du monde, c'est pas gênant. C'est des calculs. Qu'est-ce que ça correspond? Et vous verrez ça dans le ciel. On verra ça dans le ciel. Dans la vision béatifique, on sera en présence d'un temps existentiel vu par l'éternité. Ça sera magnifique. Ce sera étonnant. Alors, je jetterai des petits coups d'œil aussi, c'est étonnant. Et alors, le savant dira, mais mes calculs, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Mes calculs extraordinaires, mais qu'est-ce qu'ils sont? Devant ce réalisme extraordinaire de l'éternité. Or, le philosophe, par l'instant présent, rejoint l'éternité. Vous voyez, la seule chose où on touche l'éternité, c'est par l'instant présent. C'est pas l'ordre entre l'antérieur et le postérieur. Non, ça c'est extrinsèque à l'instant présent. C'est pour ça que c'est si important la philosophie du temps. C'est quelque chose de prodigieux. Et à partir de là, avoir un petit peu le sens de l'éternité. Gardez votre question. La preuve. Bon, la preuve, c'est Meillonne. Vous voyez la preuve. Mais j'aime mieux dire le signe, quoi. Plus objectif. La preuve, c'est subjectif. Le signe. Aristote dit le signe. Le signe, c'est que le nombre nous permet de distinguer le plus et le moins. Et le temps, le plus et le moins du mouvement. Alors ça, c'est très très joli. Voilà le signe de la rencontre du temps et du nombre. Alors, voyez, alors ça, c'est juste inverse comme raisonnement précédemment. Précédemment, il fallait séparer le temps du mouvement. Maintenant, il faut rapprocher. Il faut rapprocher le temps du nombre. Comment rapprocher le nombre? Arithmos. Le nombre, où est-ce qu'il existe, le nombre? Il n'existe que dans votre intelligence. Ça, c'est super. Vous êtes bien d'accord? Que le nombre n'existe que dans votre intelligence. Votre... Mais le fondement du nombre existe dans la réalité. C'est évident. Il y a 10 petits cailloux. Quand vous dites 10 petits cailloux, c'est que l'intelligence est passée par là. Autrement, il y a des cailloux. Les 10 petits cailloux, les cailloux, je peux les compter et dire, il y en a 10. Je suis très avancé quand je dis, il y en a 10. Je les ai nombrés. Dans les nombres, j'ai plus ordonné. Avant, il y a des cailloux. Vous voyez, là, on saisit admirablement. C'est pour ça que c'est très intéressant, cette question sur le temps, parce que on voit toute la méthode d'Aristote. C'est pas une induction. On n'induit pas le temps. On saisit l'existence du temps. Et on essaie de saisir le TST du temps. Parce que le temps n'est pas un principe. Pas un principe, c'est un accident, le temps. Dans l'ordre de l'être. Donc le signe, c'est que le nombre nous permet de distinguer le plus et le moins. Et le temps, le plus et le moins du mouvement. C'est toujours le point de vue du pléio et du élato. Alors c'est intéressant de mettre en parallèle le pléio élato avec le point de vue postérone, ustérone. Donc mettre en parallèle le plus et le moins et l'antérieur et postérieur. C'est pas la même chose, hein. Et le plus loin du mouvement. Le temps est donc une espèce de nombre. Donc le temps est 10, arithmos, un certain nombre, un 10, arithmos. Il ne faut pas dire une espèce, il faut dire un certain nombre. Mais nombre s'entend de deux façons. Il y a en effet le nombre comme nombré et nombrable, et le nombre comme moyen de nombrer. Or, le temps, c'est le nombré et non le moyen de nombrer. Mais le moyen de nombrer et la chose nombrée sont distinctes. Donc ça aussi, c'est très intéressant à bien préciser. Oui. Alors, par le nombre, Aristote précise le temps. Il découvre le lien entre le temps et le nombre. Et le lien entre le temps et le nombre, c'est que le nombre permet de distinguer le plus et le moins. Et le plus et le moins, dans le mouvement, c'est le temps. Donc il y a même fonction du nombre et du temps. La différence, c'est que le nombre est sans le dynamisme du mouvement. Et le temps intègre le dynamisme.
dynamisme du mouvement. Puisque c'est dans le mouvement que vous saisissez le plus de monde. Donc le temps est un certain nombre. Le nombre, alors le nombre s'entend de deux manières. Ça aussi c'est très important de savoir que le nombre, vous pouvez prendre le nombre comme nombré. Et le nombre comme moyen de nombrer. Ce qui est nombré et ce qui nombre. Eh bien, le temps, c'est le nombré. Et non le moyen de nombrer. Or, le moyen de nombrer est chose, et le chaud, et la réalité nombrée sont distincts. Estito arithmenon et non ce par quoi nous nombrons. Et de même que le mouvement est toujours autre, de même le temps. Donc le mouvement est toujours allo, allo, autre, autre. De même le temps. Le temps brille. Une pièce en entier est le même, car l'instant est le même dans son sujet. Car l'instant est le même dans son sujet, mais dans son essence, il est autre. Et si l'instant mesure le temps, c'est en temps qu'antérieur et postérieur. Alors ici, on va préciser les liens entre le temps et l'instant. Donc si le nun maîtraye donne pronon, donc si le nun, l'instant, mesure le temps, c'est en tant qu'antérieur et postérieur. Hystéron est protéron. Or, l'instant est en un sens le même et en un sens non. En tant qu'il varie d'un moment à l'autre, il est différent. Telle est l'essence de Tiesti de l'instant. Nous l'avons vu tout à l'heure. Quant à son sujet, il est le même. En effet, comme on l'a dit, le mouvement obéit à la grandeur et le temps au mouvement. C'est toujours chercher les conditions sine qua non, le fondement. Comme on l'a dit, le mouvement obéit à la grandeur. Vous avez donc la grandeur et le mouvement. Vous avez le temps et le mouvement et le temps. La grandeur et le mouvement. La grandeur est au mouvement, ce que le mouvement est au temps. Vous voyez alors, vous avez le fondement radical du temps, c'est la grandeur. Puisque c'est le fondement du mouvement, et que le mouvement est le fondement du temps. En effet, comme on l'a dit, le mouvement obéit à la grandeur et le temps au mouvement. Et semblablement, au point obéit le transporté, qui nous permet de connaître le mouvement et l'antérieur et le postérieur dans le mouvement. Or, le transporté est le même comme sujet. C'est ou un point, ou une pierre, ou autre chose de ce genre. Mais autre par la définition. Ainsi, les sophistes considèrent Coriscus au lycée le transporter, le mu. Car le mu, le transporter, nous permet de connaître l'antérieur et le postérieur dans le mouvement. Or, en tant que l'antérieur et le postérieur est nombrable, on a l'instant. De sorte que dans le domaine du temps, l'instant comme sujet est le même, car il est l'antérieur et le postérieur du mouvement. Mais il est différent quant à ce qu'il est. Car c'est en tant que l'antérieur et le postérieur est numérable qu'on a l'instant. Oui, c'est le point de vue. L'instant est toujours par rapport à la réalité qui existe. Donc, au mu qui existe, à ce qui est mu. Au transporté correspond l'instant, comme le temps au mouvement. Car le transporté, vous avez donc l'analogie entre les deux, n'est-ce pas ? Au transporté correspond l'instant. Et au mouvement correspond le temps. Car le transporté nous permet de connaître l'antérieur et le postérieur dans le mouvement. Or, en tant que l'antérieur et le postérieur innombrables, on a l'instant. Mais l'instant permet à l'antérieur et au postérieur d'être nombrables. Et l'instant permet par le fait même le temps. De sorte que dans le domaine du temps, l'instant comme sujet est le même, mais il est différent quant à l'essence, quant à ce qu'il est. Car c'est en tant que l'antérieur et le postérieur est nombrable qu'on a l'instant. L'instant, c'est ce qui rend nombrable l'antérieur et le postérieur. Et donc, qui permet de comprendre le temps. C'est par l'instant que je comprends le temps, philosophiquement parlant. Et ce sont là les éléments les plus connaissables. Donc, c'est tout à fait évident, hein. Vous avez bien compris. Car le mouvement est connu par le mu et le transport par le transporté. En effet, quelques minutes avant d'être transporté, en effet, le transporté est un être individuel, le mouvement non. En un sens donc, l'instant est toujours le même et en un autre, il n'est pas le même. En effet, c'est le cas du transporté. L'on voit de même que sans le temps, pas d'instant. Sans l'instant, pas de temps. De même, en effet, que le transport et le transport coexistent, ainsi coexistent le nombre